marque-page.
C'est avec toi, Elsa.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau marque-page. Chers auditeurs, après mon marque-page exalté de la semaine dernière, vous vous souvenez peut-être de la question posée par Léo à Raphaël et Alexandre. Et vous, êtes-vous romantique ? D'un ton catégorique, Raphaël s'est empressé de répondre non. Alexandre a quant à lui marqué son profond désintérêt par une réponse plus qu'évasive. Pour sa part, Léo n'a pas du tout rebondi. Une façon de signifier son adhésion pleine et entière aux deux réponses négatives formulées. Chers coéquipiers, j'ai bien pris note de votre indifférence et de l'ennui que suscite chez vous la lecture d'une merveilleuse histoire d'amour. C'est pourquoi j'ai fait le choix de vous infliger un second marque-page dédié à ce sujet. Comme plusieurs d'entre elles sur le marque-page, ma recommandation du jour est une œuvre du Moyen-Âge. Il s'agit d'une histoire d'amour, célèbre à travers un vaste ensemble géographique dont la littérature médiévale est peu connue en France. Le Maghreb, le Moyen-Orient et l'Asie centrale. Cette histoire d'amour est très ancienne. Elle aurait été imaginée au 7e siècle par des Bédouins, c'est-à-dire des Arabes nomades du désert, originaires d'une région correspondant à l'Irak actuel. Ces Bédouins l'ont progressivement diffusée au gré de leurs voyages. Plusieurs versions de cette histoire ont été élaborées au fil des siècles. En effet, elle a beaucoup inspiré les artistes, notamment les poètes. La version que j'ai pu découvrir est celle du poète Jami. Jami est né au XVe siècle, plus précisément en 1414, dans le Khorasan, une région du nord-est de l'Iran actuel. Jami est considéré comme la dernière grande figure de la poésie classique iranienne. En effet, cette dernière connut un certain déclin après la mort de Jami en 1492. La poésie classique iranienne s'est façonnée à partir des mythes et légendes de la culture perse et de la culture arabo-musulmane, marquée par la prééminence du Coran. À ses débuts, la poésie classique iranienne s'est caractérisée par la célébration du glorieux passé des souverains perses, avant la chute de leur empire et sa conquête par les Arabes. Les califes arabes et leurs gouverneurs locaux, appelés les émirs, ont continué à promouvoir cette poésie de langue persane. Toutefois, les thèmes abordés se sont adaptés à la culture arabo-musulmane. Les épopées des souverains perses ont cédé la place à des œuvres lyriques, voire mystiques, marquées par un profond pessimisme. Cette évolution des thèmes abordés s'explique aussi par le développement en Iran, entre le XIIe et le XIVe siècle, du soufisme. Le soufisme désigne un ensemble de pratiques ésotériques et mystiques dans l'islam, dont l'objectif est la purification de l'âme et son élévation vers Dieu. Les œuvres du poète Jami s'inscrivent parfaitement dans cette tendance. En effet, Jami lui-même avait étudié et pratiqué le soufisme. 87 œuvres de Jami ont traversé les siècles. Parmi elles se distingue la version de l'histoire d'amour que j'évoquais il y a quelques instants. Elle s'intitule « Meijung et Leila ». Jami commence sa narration par l'évocation d'un prince, chef de la tribu nomade des Zamérites. Ce prince était illustre de par sa richesse considérable, composé de nombreux biens et d'immenses troupeaux, son sens de la justice et sa générosité à l'égard des membres de sa tribu comme des étrangers. Ce prince était très respecté et admiré. Côté vie personnelle, il était le père de 10 enfants. Le plus jeune, un garçon, était son préféré. Ce fils s'appelait Caïs. Caïs avait hérité de la même générosité que son père. Passionné par la littérature, Caïs composait depuis l'âge de 14 ans ses propres vers, dont la qualité était reconnue par ses pairs. Caïs avait un esprit aventurier. À cet égard, son père lui avait offert une chamelle avec laquelle il parcourait tous les environs. Un jour, des voyageurs furent accueillis dans sa tribu. Ils évoquèrent auprès de Caïs une jeune fille, d'une beauté sans pareille, qui s'appelait Leila. Transporté par leur description de Leila, Caïs souhaita immédiatement faire sa connaissance. Il monta sur sa chamelle et s'élança vers la tribu à laquelle Leila appartenait. Après un long trajet à travers le désert, il parvint à la rejoindre et y fut reçu avec beaucoup d'amabilité. Caïs porta ses regards dans tous les sens, angoissé à l'idée de ne pas réussir à apercevoir celle qu'il rêvait de rencontrer. soudain, il la vit. Jamie écrit que Caïs ne fut alors plus maître de son cœur. Le coup de foudre est réciproque. Leïla fut immédiatement charmée par ce jeune visiteur inconnu. Le soir venu, Caïs fut contraint de rejoindre sa tribu. Cette première séparation fut terrible pour nos deux personnages. Aussi, dès le lever du jour le lendemain, Caïs décida de traverser une nouvelle fois le désert afin de rejoindre sa bien-aimée. Arrivé à destination, il ne parvint pas à retrouver Leïla. Désespéré, il cria haut et fort son amour et la douleur qu'il avait éprouvée toute la nuit précédente du fait d'en avoir été séparé. Caïs pensait être seul. Or, Leïla entendit tout. En effet, elle était cachée dans l'une des tentes situées à proximité. Elle en sortit immédiatement afin de faire part à Caïs de ses propres sentiments. À partir de ce jour, Caïs se rendit quotidiennement chez Leïla avant de rentrer chez lui à la nuit tombée. L'amour de Caïs pour Leïla fut bientôt connu des membres de sa tribu, et de son père en particulier. Dans un premier temps, le prince tenta de dissuader son fils de fréquenter Leïla. En effet, elle était issue d'une tribu dont le rang et le prestige étaient bien inférieurs à ceux des Amérites. Le père engagea même un projet de fiançailles entre son fils et une princesse plus digne de son rang. Caïs resta sourd aux recommandations et aux projets de son père. Bien au contraire, il lui réaffirma l'amour profond qu'il éprouvait pour Leïla, indépendamment de leurs différences de classe sociale. Bouleversé par la détermination et la sincérité de son fils, le prince céda et accepta d'aller demander sa main de Leïla. Si Caïs put finalement compter sur le soutien de son père, il n'en fut pas de même auprès du père de Leïla. Contre toute attente, il refusa d'accorder la main de sa fille à Caïs. Pire, il lui interdit de la revoir. En effet, Caïs louait dans ses poèmes la beauté et les qualités innombrables de sa bien-aimée. Ainsi, l'ensemble des tribus de la région furent progressivement informés de leur histoire d'amour. Or, le père de Leïla estima que la situation avait gravement porté atteinte à la réputation de sa fille, et par extension de sa tribu, dans la mesure où Caïs et Leïla se fréquentaient sans être mariés. Il considéra même la demande du chef des Amérites comme une atteinte à son honneur. Malgré les menaces du père de Leïla, Caïs continua à rendre visite à sa bien-aimée. Excédé, le père de Leïla porta plainte auprès du calife. Le différend entre les deux tribus prit alors une ampleur régionale. Si vous souhaitez connaître la suite de l'histoire, je vous donne rendez-vous à l'abbaye de Bordeaux. Ce récit est accessible en ligne sur la plateforme Babor Plus. En attendant de le lire, pourquoi je vous conseille ce récit ? Sur la forme, cette histoire d'amour offre un très bel exemple de poésie classique iranienne. Pour les lecteurs occidentaux, elle propose une écriture originale, tant dans ses figures de style que dans l'imaginaire invoqué. Voici un exemple parmi tant d'autres. Au tout début du récit, Jamie écrit « Lorsque, au lever de l'aurore, le zéphyr vivifiant comme le souffle de l'amour, commença à frémir dans le feuillage, chargé du parfum le plus pur des fleurs, et que de la conque azurée et du firmament une pluie de perles descendit sur la terre rafraîchie, Caïs, délivré du monstre hideux de la nuit, renferma en son sein ses plaintes et ses soupirs. » Les personnages, notamment Caïs, sont en communion étroite avec la nature. D'ailleurs, cette dernière évolue tout au long du récit en fonction des émotions éprouvées par Caïs. Lorsque Caïs se trouve à proximité de Leïla, la nature se pare de ses plus belles couleurs, des plus riches parfums, des bêtes sauvages les plus gracieuses. Jamie mobilise ainsi tous les sens de son lecteur, comme la vue ou l'odorat. Pour ce qui est du toucher, du goût et de l'ouïe, Leïla apparaît toujours dans une profusion de tissus, ceux de ses vêtements, de sa tente ou de ses tapis, dont les descriptions permettent au lecteur d'apprécier leur texture. Elle propose à Caïs les mets les plus délicats et l'entretien d'une voix dont Caïs ne se lasse jamais. Sur le fond, cette histoire s'inscrit dans la culture arabo-musulmane et peut ainsi satisfaire le désir du lecteur de découvrir de nouveaux horizons. Je vous disais que cette histoire était très célèbre dans sa région d'origine. Ce récit est aussi apprécié également par toutes les classes sociales. Elle ne se racontait pas uniquement dans les élites. L'histoire tient compte des contraintes sociales qui pouvaient peser sur les individus à cette époque, notamment sur les femmes. Si Caïs laisse libre cours à ses sentiments et dispose d'une liberté totale de mouvement, Leïla reste enfermée dans sa cabane, ou voyage nécessairement accompagnée. Le titre même du récit souligne cette disparité dans le vécu des deux personnages. Vous avez certainement relevé qu'il ne s'intitule pas Caïs et Leïla, mais Meijung et Leïla. En arabe, Meijoum signifie l'exalté. Si Leïla ne peut s'exprimer librement sur son amour du fait des convenances sociales de son époque, elle n'en ressent pas moins un amour aussi profond pour Caïs. L'expression des sentiments, ouverte pour Caïs et intériorisée pour Leïla, enrichit considérablement le propos et exalte le lecteur lui-même. Peut-être pas autant que Caïs, mais l'enthousiasme est bien là. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau marque-page.